Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bon réveil, vous êtes sur Europe 1. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Nous sommes le vendredi 14 mai. Le 5-7 démarre en direct. Et je ne suis pas en studio ce matin, c'est un 5-7 que nous allons consacrer à l'agriculture et plus particulièrement aux éleveurs laitiers. Nous avons installé les micros d'Europe 1 en Seine-et-Marne, à la ferme de Juchy. C'est chez vous, Jean-Claude Pet, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de nous accueillir ici, on s'est vraiment installé dans votre salon, on vous a un peu envahi avec tout notre matériel. Mais on est ravis d'être là, vous êtes éleveur laitier, votre exploitation est accolée aussi à une fromagerie. C'est la particularité, c'est un petit écosystème ici.
C'est un petit écosystème, on est à la fois dans une région un peu particulière qui est la Brie où on fabrique un fromage d'AOP et on a l'historique d'avoir fait une fromagerie à côté de l'exploitation.
C'est-à-dire que le lait n'a qu'à traverser la rue, la cour même plus précisément, pour se transformer en fromage. On va découvrir tout ça tout au long de l'émission. Je précise que c'est du Brie de Melun et vous nous direz ce qu'il a de particulier tout à l'heure. On va partager votre quotidien, on ira bien sûr voir vos bêtes, on va assister même à la traite tout à l'heure. Et puis on parlera des problématiques de l'ensemble de votre filière avec plusieurs invités. Le prix du lait, la rémunération des éleveurs, la transmission aussi aux générations futures. On sait que c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup d'exploitations et aussi pour celle-ci. Vous verrez. Je salue Omblin Roche et Martin Lange qui sont là, bien sûr, bien installés en studio. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Un petit morceau de Brie au petit-déj, ça vous dit ?
Toujours, dans le café.
Dans le café. Bon, j'espère que vous allez bien. Vos rendez-vous habituels seront là, bien sûr. Martin, vous continuez de scruter les réseaux sociaux.
Oui, petit voyage ce matin dans l'espace. On va explorer les réseaux de Thomas Pesquet, l'astronaute français, un très suivi, une popularité que certains tentent d'utiliser, vous verrez.
Ce sera à 5h45 tout à l'heure. Et Omblin, on va prendre l'air de la nature, mais en musique avec vous ce matin.
C'était en 2003, un hymne écolo fait décoller un groupe stéphanois. On se dirige plus au sud. Mickey 3D s'adresse à un enfant pour l'alerter sur l'état de la planète.
Il faut que tu respires. Et ça sert rien de le dire.
Le rock écolo de Mickey 3D, l'histoire du groupe tout à l'heure dans la partition, ce sera à 6h20 avec vous, Omblin Roche, vous restez pas loin, on vous retrouve
tout à l'heure.
4h59, d'abord la météo du jour, bonjour Valérie Darmon.
Bonjour à toutes et à tous, eh bien je n'ai pas de bonnes nouvelles avec de nouveau un ciel très nuageux ou couvert ce matin sur quasi tout l'Hexagone. On a des pluies faibles qui persistent sur la Normandie et les Hauts-de-France, d'autres qui circulent de l'Alsace et de la Lorraine aux Alpes. Aujourd'hui on n'oublie pas son parapluie. Là où la situation est la meilleure, c'est le long de la façade atlantique et encore de plus en plus à partir de la mi-journée ce matin, c'est bien couvert également. Et les températures, pour couronner le tout, sont en dessous des normales de saison.
Ouais, bon, ici, c'est un petit 8 degrés au thermomètre de la voiture tout à l'heure. On est en Seine-et-Marne, donc pas très loin de Provins. À tout à l'heure, Valérie Darmon.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Tout de suite, votre premier journal sur Europe 1. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
Bon réveil à tous, il est 5h.
Profil solitaire qui nous laisse à penser qu'il pourrait potentiellement nous attendre sur son terrain qu'il connaît parfaitement bien. Il a donc des avantages forcément sur nous.
L'homme est aussi redouté que recherché avec un dispositif de gendarmerie hors norme pour retrouver au milieu des bois dans les Cévennes celui qui est accusé de double meurtre. Expérience scientifique, de jeunes Anglais guéris du Covid vont être réinfectés volontairement par des chercheurs pour travailler sur la réponse immunitaire. Et puis il voulait tout miser sur le Bitcoin. Elon Musk, patron de SpaceX et de Tesla, change d'avis 2 mois plus tard en se rendant compte de la pollution énorme que génère cette crypto-monnaie.
À suivre Jean-François Pérez pour le journal des sports et nous revenons ici pour découvrir l'exploitation, la ferme de Juchy qui nous accueille ce matin. À tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Au quatrième jour, la traque continue dans les Cévennes face à un fugitif potentiellement dangereux, tireur aguerri, porteur d'une arme capable d'atteindre avec précision des cibles à 300 mètres. Le dispositif de gendarmerie va monter à 350 personnels déployés, mais toujours aucune piste et aucun contact établi. Stéphane Frangy.
Comment un fugitif peut-il échapper seul dans un périmètre quadrillé à plus de 300 gendarmes? Eh bien, premièrement, parce qu'il est conditionné, selon le procureur Éric Morel.
C'est un homme apte à la survie en milieu hostile. C'est-à-dire que c'est un homme qui a l'habitude de partir en montagne, c'est un chasseur, donc apte effectivement à vivre et à survivre dans un milieu hostile.
Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que sur un terrain escarpé avec des forêts, des caches naturelles, les militaires doivent avancer prudemment. Le général Hoth de la division sud de gendarmerie craint que ces hommes puissent tomber dans une embuscade.
J'avancerai presque le terme de survivaliste, puisqu'il a un profil de solitaire qui nous laisse à penser qu'il pourrait potentiellement nous attendre sur son terrain, dans sa zone de confort, un terrain qu'il connaît parfaitement bien, mais qu'il maîtrise parce qu'il y tire en solitaire très souvent. Donc on considère qu'il en connaît tous les recoins. Il a donc des avantages forcément sur nous.
C'est pourquoi des renforts supplémentaires sont arrivés hier. La préfète du Gard a également prévenu que la traque pourrait durer. Saint-Jean-du-Gard, Stéphane Frangy, Europe 1.
Et bien sûr, nous suivons l'enquête heure par heure et vous tenons informés sur Europe 1 et Europe 1.fr. En ce long week-end de l'Ascension, beaucoup en profitent pour voir leur famille. Et alors qu'on avance prudemment dans les étapes du déconfinement, l'Agence régionale de santé dans les Hauts-de-France distribue gratuitement des autotests dans des lieux très fréquentés. Maximilien Carlier.
Bonjour monsieur, vous partez en voyage? Donc aujourd'hui là je vous propose un autotest à effectuer vous-même.
Des bénévoles de la Croix-Rouge mobilisés un peu partout, Gare Lille-Flandre, dans leurs mains des boîtes blanches avec écouvillon.
Donc c'est simple, il faut le rentrer dans chaque narine jusqu'au premier trait. Vous fermez le petit tube, ensuite vous allez mettre 4 gouttelettes dans la petite plaquette et au bout de 10 minutes vous avez le résultat.
Ouais, je le prends avec moi ça.
Oui, voilà.
Je vais l'utiliser comme ça si j'ai quelque chose, je protège mes enfants.
Protéger ses enfants, ses parents, grands-parents avant de se retrouver, comme c'est le cas de Claire, direction Grenoble avec son mari et son fils, et dans le train, autotest pour tout le monde.
Ça va être la réjouissance du trajet. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de se faire tester avant, donc ça tombe très bien. Mais en tout cas, voilà, on veut limiter les risques pour les rencontres avec la famille, quoi.
Alors bon, certains voyageurs réfractaires refusent les tests.
C'est pas parce que vous avez le vaccin que vous ne pouvez pas contracter le virus.
Mais la plupart acceptent, d'autant plus que c'est gratuit, des distributions tout le week-end dans des lieux fréquentés, gares, parcs, centres commerciaux, sur le front de mer également et dans des campings. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Un an et demi de pandémie et la science qui cherche encore pas mal de réponses, notamment ce qui se passe concrètement lors des infections. Voilà donc une expérience qui peut paraître complètement folle à première vue. Des chercheurs britanniques vont réinfecter volontairement d'anciens malades, Anne Le Gall.
Exactement, cette étude sera menée par l'université d'Oxford. À partir de lundi, une cinquantaine d'adultes de moins de 30 ans, guéris du Covid depuis plusieurs mois, vont recevoir volontairement dans le nez une petite dose de coronavirus sous contrôle médical. Ils seront réinfectés par la souche originale venue de Wuhan et recevront tous exactement la même quantité de virus. Alors cela n'arrive pas dans la vie réelle, mais c'est justement ce qui permettra de faire avancer la recherche, car avec cette expérience, les scientifiques cherchent à répondre à plusieurs questions. D'abord, à partir de quelle quantité minimale de virus est-ce que l'on est vraiment contaminé? Que se passera-t-il ensuite dans l'organisme si le virus devient saisonnier et que l'on est tous amenés à le croiser plusieurs fois? Et enfin, combien de temps les anticorps nous protègent-ils? À terme, l'objectif, c'est d'apprendre à concevoir des vaccins et des traitements encore plus ciblés. Une fois réinfectés, ces patients volontaires seront placés à l'isolement dans un hôpital sous surveillance médicale pendant au moins 17 jours. Si leur état se dégrade, ils recevront des anticorps monoclonaux pour limiter le risque de forme grave.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Il est 5h05 et il y a à peine un mois et demi, on vous disait ici même qu'Elon Musk investissait dans le Bitcoin et acceptait même que l'on achète une Tesla en payant avec cette crypto-monnaie très volatile. Il change d'avis. Motif, l'impact très négatif du Bitcoin sur l'environnement, Clément Le Saffre.
Eh bien, derrière sa façade immatérielle, le Bitcoin présente un bilan carbone très négatif. Le processus de création de cette crypto-monnaie qu'on appelle le minage consiste à faire tourner des fermes de milliers d'ordinateurs 24 heures sur 24. C'est donc très énergivore. Et le problème, en plus, c'est que 70% de ces fermes sont situées en Chine, où l'électricité provient encore massivement du charbon. Résultat, la moindre transaction en Bitcoin nécessite des quantités faramineuses d'énergie. Lionel Haré est directeur associé au Boston Consulting Group et spécialiste des crypto-monnaies.
Quand vous faites une opération en Bitcoin, c'est à peu près la même chose que faire tourner 5000 fours à micro-ondes pendant les 10 minutes que prend l'enregistrement de l'opération. Pour donner un autre exemple, et c'est moi ce qui m'avait beaucoup frappé quand Elon Musk a annoncé qu'il acceptait ces transactions, payer une voiture en Bitcoin, c'est équivalent à faire rouler cette Tesla sur 5000 km.
Et la frénésie récente autour du Bitcoin n'a pas amélioré la situation. Selon l'université de Cambridge, la consommation d'électricité liée au Bitcoin a été multipliée par 10 en 3 ans. Elle atteint désormais 150 TWh par an. C'est plus que la consommation de pays comme la Suède ou l'Argentine.
Clément Le Saffre, spécialiste tech d'Europe 1. Un anniversaire dans l'actualité, cela fera 30 ans demain qu'Edith Cresson a été nommée première ministre par François Mitterrand en 1991. Elle sera d'ailleurs l'invitée du tête-à-tête d'Europe Matin tout à l'heure à 7h40. Aucune autre femme n'a accédé à ce poste. Michèle Alliomari, pourtant, y a cru.
Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre à l'époque, m'a appelé en me disant que le président de la République envisage de te nommer Premier ministre. Réfléchis-y, il faut s'y préparer. J'ai vu le président de la République le lundi matin. Très clairement, il m'a dit qu'il m'envisageait comme Premier ministre. Le mardi matin, il m'a appelé en me disant finalement que j'ai décidé de nommer Dominique de Villepin. Voilà. Et après, j'ai appris effectivement que dans la nuit, Dominique de Villepin était allé à l'Élysée pour le rencontrer et il lui proposait de faire une équipe entre lui-même et Nicolas Sarkozy, qui serait ministre de l'Intérieur. Je ne me serais jamais permis d'aller voir le président de la République pour vendre ma candidature au milieu de la nuit, pour essayer de convaincre le président de la République qu'il aurait mieux valu me nommer que quelqu'un d'autre.
L'ancienne ministre, mais jamais première ministre, Michèle Alliomari au micro européen d'Hélène Terzian. À propos d'égalité entre les femmes et les hommes, il y a cette proposition de loi adoptée mercredi soir à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour un quota de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises. Les députés ont considéré qu'il fallait en passer par des quotas pour que la parité progresse vraiment sur le terrain. Olivier Samin.
Il y a tout juste 10 ans, la loi Copé-Zimmermann imposait 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Cette fois-ci, c'est l'étage du dessous qui est concerné, celui des directions opérationnelles, ce qu'on appelle aussi les comités exécutifs ou les comités de direction. En 2027, les entreprises de plus de 1000 salariés devront compter au moins 30% de femmes parmi leurs cadres dirigeants. Et en 2030, la barre sera portée à 40%. Les entreprises qui ne seront pas dans les clous s'exposeront au paiement d'une pénalité financière qui pourra aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Qui pourra ? Parce que l'inspection du travail tiendra compte des efforts entrepris pour se rapprocher de ces quotas, sachant que certaines entreprises partent de loin pour des raisons qui ne sont pas toujours de leur fait. Encore trop peu de femmes, par exemple, choisissent de faire carrière dans le BTP ou dans certains secteurs de l'industrie. Voilà pourquoi le texte voté mercredi soir par les députés donne du temps aux entreprises pour qu'elles se mettent en ordre de marche. Mais dans 6 ans, la règle des quotas s'appliquera. Tout groupe parlementaire confondu, les députés ont estimé que c'est la seule solution pour obtenir des résultats.
Olivier Samin, spécialiste des questions sociales à Europe 1. La musique dans ce journal avec Mad Foxes. Vous ne connaissez peut-être pas ce groupe nantais qui vient tout juste de sortir son 2e album. Ils n'ont qu'une poignée d'écoutes sur les plateformes de streaming. Mais leur notoriété est en train de grandir. Et voilà pourquoi le célèbre présentateur Jimmy Fallon, américain, qui les a invités dans son émission Tonight Show sur la chaîne NBC. Rien que ça, Angèle Châtelier nous les fait découvrir.
Here's Mad Foxes.
L'émission américaine de Jimmy Fallon, le Tonight Show, rassemble des millions de téléspectateurs chaque soir. Les trois musiciens de Mad Foxes, eux, sont amis, viennent de Nantes et leur rock garage n'a été écouté que quelques milliers de fois sur les plateformes de streaming. Mais Jimmy Fallon les a entendus sur une radio.
J'ai entendu ce groupe et j'ai adoré. Il est vraiment fantastique.
Alors il leur a demandé d'enregistrer une session live pour son émission. Difficile d'envisager une meilleure exposition médiatique. Lucas Bonfils, le chanteur du groupe, n'en revient pas.
Au début, on croyait que c'était un canular, vraiment. C'était la meilleure promo possible. On a quadruplé d'écoute sur les plateformes, aussi sur les vues sur notre clip. Donc ça fait super plaisir.
Et c'est un vrai coup de pouce pour promouvoir Ashamed, leur 2e album qui vient de sortir. Pour l'instant, ils ne sont programmés que dans des petites salles en France à l'automne, devant une centaine de spectateurs, pas plus. Mais ce succès inattendu leur donne envie de se projeter beaucoup plus loin.
Le rock endiablé de Mad Foxes, de quoi vous réchauffer avec vos 9 degrés à Juchy, Sébastien Krebs.
Merci à vous, François Geffrier, pour le journal. Bah oui, parce qu'on est sorti, on est dehors, figurez-vous. Enfin, dehors, on est dans le bâtiment, dans l'étable, avec l'éleveur qui nous accueille ici à la ferme de Juchy. On va découvrir son quotidien dans un instant. D'abord, les sports.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour à tous.
Votre journal des sports, et c'est la fin du rêve pour le petit poussé Rumilly.
Exactement, les joueurs de National 2, l'équivalent de la 4e division, avaient pourtant ouvert le score en première mi-temps, mais ils ont subi ensuite la loi d'une équipe de Monaco en pleine forme. Score final 5-1 pour les professionnels. C'est donc Monaco qui affrontera le PSG en finale. Du boulot de pro, résume le milieu de terrain monégasque et buteur hier soir, Aurélien Tchouaméni.
Oui, on savait que ça allait pas être un match facile. On a eu une entame de match où on a eu des occasions, mais voilà, on s'est fait cueillir à vif dès le début avec ce but encaissé, mais on est resté serein. On savait que si on mettait notre plan de jeu en place, ça allait passer, et c'est ce qui est arrivé, donc on est satisfait.
Et voilà comment les Savoyards, les hauts Savoyards de Rumilly-Vallières ne seront donc pas les deuxièmes pensionnaires de 4e division à jouer une finale de Coupe de France après Calais en 2000. Monaco était donc trop fort, mais on va dire que les amateurs ont savouré l'événement, à l'image du milieu de terrain Jocelyn Gay.
Évidemment, c'était l'objectif premier, de prendre du plaisir. C'était d'ailleurs dans les consignes du coach, d'avant tout, prendre du plaisir dans la rencontre. Et emmagasiner un maximum d'expérience, et ouais, c'est que des souvenirs inoubliables maintenant, malgré le résultat.
Voilà deux réactions au micro de notre envoyé spécial à Annecy, Julien Froment. PSG Monaco, ce sera donc l'affiche au sommet de cette finale de Coupe de France. Elle aura lieu mercredi prochain au Stade de France à huis clos. Et peut-être sans Neymar, le dossier du Brésilien passe ce soir en commission de discipline. Neymar a été averti mardi soir face à Montpellier. Il bénéficiait d'un sursis, il devrait être levé. Conséquence, suspension probable pour l'un des deux derniers grands rendez-vous de la saison. Sachez que ce sera déjà le cas pour Presnel Kimpembe, le défenseur du PSG. PSG Monaco, mercredi, 20h minuit, soirée spéciale sur Europe 1. Un dernier mot de foot pour vous dire que la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea, d'abord prévue à Istanbul à la fin du mois, se déroulera à Porto. La Turquie figure en effet sur la liste rouge des pays à éviter pour cause de Covid. En se déplaçant à Porto, l'UEFA espère accueillir 12 000 supporters britanniques. On termine avec du judo. Sébastien, l'équipe de France féminine est en stage commando à 3 semaines des mondiaux et surtout à 2 mois des Jeux Olympiques de Tokyo. Stage multisport dans les Pyrénées-Orientales, à Saint-Cyprien, avec notamment du kart ou encore du kayak, mais des choses aussi beaucoup plus corsées. Et parmi les participantes, vous allez entendre la jeune Shirin Boukli, 22 ans, grosse chance de médaille à Tokyo. Elle se régale.
J'avais le commando, il fallait vraiment y aller quoi, on devait plonger de 5 mètres, puis après on avait une tyrolienne avec on devait se lâcher dans la mer, mais l'eau était super gelée. Franchement c'était génial, hein, mais l'eau était un peu plus chaude, ça aurait été pas la même chose.
Voilà, elle est prête, Shirin Boukli, avec Axel May, le début du tournoi de judo au jeu. Ce sera le 24 juillet, dans 70 jours, on n'a jamais été aussi près.
Jean-François Pérez, merci, à tout à l'heure.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
5h15 sur Europe 1. Il est temps de découvrir le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. Et mon pari gagnant sera le 612 Adeline. Dans cette course européenne d'un bon niveau, cette jument italienne, titulaire de bonnes performances sur ses terres, vient d'effectuer d'excellents débuts en France, à Argentan précisément, où elle s'est classée seconde, alors qu'elle n'était certainement pas encore à 100% de ses moyens. Je la sais depuis en progrès le matin à l'entraînement, et sachant que le profil de l'hippodrome de Vincennes qu'elle va découvrir ne pourra que l'avantager, sa place est à coup sûr dans les trois premiers. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1, dans la 6e course, le numéro 12, Adeline.
Merci à vous Thierry Léger, et on retrouvera vos pronostics du Quintet, bien sûr, dans une vingtaine de minutes. Europe 1. Et nous sommes toujours donc installés à la ferme de Juchy. C'est un 5-7 particulier qui démarre ce matin en direct chez un éleveur laitier. Nous allons découvrir son quotidien dans un instant. On s'est installé dans l'étable avec les bêtes. On est un peu en train de réveiller les vaches. On va vous raconter tout ça dans un instant. Vous savez que les agriculteurs ont toute leur place dans le 5-7. Et c'est une semaine spéciale qui démarre sur Europe 1 dédiée à l'agriculture française. À tout de suite en direct.
Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.
C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard. Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Il est 5h16 sur Europe 1 et nous sommes avec Jean-Claude Pet qui nous accueille ici à la ferme de Juchy.
On est dans votre étable maintenant. C'est une matinale spéciale. Merci encore de nous accueillir. Je rappelle à nos auditeurs qui se réveillent peut-être, qui sont un peu surpris. Oui, on n'est pas en studio ce matin. On s'est installé à la ferme et vous allez voir que plusieurs émissions tout au long du week-end vont s'installer chez des agriculteurs pour mettre en lumière leur quotidien, pour parler aussi de toutes les problématiques liées à l'agriculture. Jean-Claude Pen, on s'est donc installé dans votre étable avec vos bêtes qu'on est un peu en train de réveiller. Elles n'ont peut-être pas l'habitude qu'on vienne les voir aussitôt d'habitude.
Bonjour à tous. Non, les vaches là sont encore un peu endormies. Enfin, ça ne dort pas véritablement une vache, mais là elles sont en position de repos, on va dire. C'est le lever du jour, on commence à entendre des oiseaux, ça va commencer à se réveiller. Elles vont venir finir l'alimentation qui leur a été distribuée hier. Et puis, dans une heure, elles vont se préparer pour la traite du matin.
Alors, dites-nous un peu un mot de la région. On est en Seine-et-Marne, ici. On est une dizaine de kilomètres de Provins. Quelle est la région qui nous entoure ?
Alors, la région qui nous entoure, c'est la Brie. Hein, c'est l'un des deux greniers de la France. C'est une région qui est essentiellement une région de polyculture, de culture de blé. Mais c'est aussi une vieille tradition, une vieille région d'élevage où on produit les fameux fromages de Brie. Il y a plusieurs fromages de Brie. Il y a notamment les deux appellations, le Brie de Meaux qui est le plus connu, le Brie de Melun qui est le petit frère mais peut-être le plus traditionnel des deux Brie.
Et c'est puis, celui-là qu'on fabrique ici,
c'est le Brie de Melun. Qu'on fabrique ici. Et puis ensuite, ça a donné son nom à tous les fromages de Brie, alors qu'ils sont fabriqués à travers le monde sans aucun contrôle, qui sont fatalement pu de la Brie. Mais le Brie de Meaux et le Brie de Melun sont des fromages de la Brie.
Alors, votre exploitation est assez étendue. Vous avez combien de vaches sur l'exploitation ?
Alors, l'exploitation, c'est une exploitation où on fait de la polyculture élevage. Hein, on cultive des céréales et on cultive l'alimentation de nos vaches. Et on a 100 vaches laitières en production qui produisent à peu près, en moyenne, 800 000 litres de lait par an.
Ce qui est une grosse exploitation, parce que je disais qu'en moyenne, c'est 60 vaches, une exploitation en France.
C'est une exploitation qui est au-dessus de la moyenne. Il y a, il y a à peu près 10% des exploitations laitières qui sont à ce niveau de plus de 100 vaches, aux alentours, ou plus de 100 vaches.
Est-ce que vous cultivez autour sur vos parcelles ? C'est ce que mangent vos vaches. C'est ça qui est important.
Voilà, on cultive la quasi-totalité de l'alimentation de nos animaux. On ne cultive pas que ça. Hein. On est aussi producteur de blé, de betteraves, de plein de choses. Mais on nourrit à 85% à peu près les animaux avec les productions de l'exploitation. Ça fait également partie des obligations du cahier des charges de l'appellation.
Alors, ce que je voudrais raconter, parce que c'est ce qui m'a marqué hier quand je suis venu vous rencontrer hier après-midi ici, c'est que dès qu'on rentre dans l'étable avec vous, alors les vaches se lèvent, elles s'approchent tout de suite, elles passent la tête à travers le grillage, elles viennent vous voir. Elles sont très sociables. Hein.
Elles sont très sociables. C'est aussi la façon dont on les habitue. Oui. Dès le départ, il faut qu'on ait un contact qui soit bienveillant avec les animaux, et les animaux nous le rendent bien. Alors là, ce matin, elles sont encore pas réveillées, il n'y a personne qui est venu nous voir. Mais c'est vrai qu'habituellement, aussitôt qu'on rentre dans l'étable, elles viennent nous voir, en fait. Elles viennent se faire, pour certaines, caresser. Même.
Ça veut dire que le bien-être animal, ça a toujours été un sujet, une préoccupation pour vous ?
Le bien-être animal, c'est de toute façon, c'est le fil conducteur de la vie d'un éleveur. Travailler avec des animaux qui ne sont pas dans le bien-être, ça ne va jamais très bien, ni pour l'éleveur, ni pour les animaux. Et donc, on a tout intérêt à ce que les vaches soient au mieux de leur bien-être et de leurs envies. En fait, ce n'est pas tellement leur imposer des façons d'être, c'est les laisser être comme elles ont envie.
Alors, comme elles ont envie, justement. Alors, elles sont sous ce bâtiment, bien sûr, abritées. Elles peuvent aussi sortir.
Alors, nous, les vaches, ce n'est pas vrai partout, hein, mais... Il y a quelques élevages où les vaches ne sortent pas, mais la très grande majorité des élevages français fait sortir les vaches. Et nous, on a un parc autour de l'étable où elles peuvent sortir. Alors, on n'est pas dans une région très herbagère, donc la majorité de l'alimentation n'est pas basée sur le pâturage. Mais elles ont, à cette époque-ci de l'année, pendant 6 mois à peu près, un accès libre à l'extérieur. Elles peuvent rentrer, sortir. Alors souvent dans la journée, quand il fait chaud, quand il y a ou quand il pleut, elles restent à l'abri du bâtiment. Ouais. Et puis quand elles en ont envie, elles vont sur la pâture et elles vont consommer de l'herbe et se promener.
Et ça aura aussi un effet sur les caractéristiques du fromage qui est fabriqué juste à côté dans la fromagerie. On en parlera tout à l'heure puisque le propriétaire de cette fromagerie viendra nous rejoindre.
cette fromagerie, c'est vous qui l'avez créée, c'est vous qui avez tout fait finalement ici. Parlez-nous un petit peu de votre parcours.
Mon parcours, c'est je suis fils d'exploitant agricole. Mes parents étaient
exploitants. C'était l'exploitation familiale ici.
C'était l'exploitation de mes grands-parents qui étaient des Bretons qui sont arrivés ici dans les années 50. Et ensuite, mon père et ma mère ont repris cette exploitation. C'était à l'époque, il y a toujours eu des vaches, mais c'était plutôt une exploitation de grande culture. Et moi, j'ai toujours été plutôt passionné par les vaches. Et donc, quand je me suis installé en 91, on avait déjà décidé d'augmenter le troupeau et on a créé un atelier de transformation pour aller jusqu'au bout du produit et fabriquer des fromages. Le fromage par excellence de la région étant le Brie de Melun, on s'est très vite orienté vers le Brie de Melun.
Avec une appellation dont on parlera tout à l'heure.
Avec l'appellation d'origine contrôlée à l'époque, et aujourd'hui on a changé les noms, ça s'appelle une AOP, mais c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que c'est du lait de la région, produit suivant un cahier des charges, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nourrir les vaches n'importe comment, leur donner n'importe quoi. Il y a des exigences.
Qui sont extrêmement précises.
Liées à la production de ce produit.
On comprend que vous avez à la fois les cultures, à la fois une centaine de vaches ici. Vous ne travaillez pas tout seul sur l'exploitation.
On ne travaille pas tout seul sur l'exploitation. Ouais. Alors, l'exploitation, aujourd'hui, il y a quatre personnes qui travaillent de façon permanente sur l'exploitation. Et puis, il y a la fromagerie qui est issue de l'exploitation, qui est toujours sur place, où il y a six personnes qui travaillent de façon permanente.
C'est quoi la vie d'un éleveur sur une exploitation comme celle-ci ?
Alors, la vie d'un éleveur, c'est... Déjà, il faut dire qu'être éleveur laitier, en général, c'est un métier de passion. Hein, c'est pas... On ne peut pas faire ça dans la contrainte, autrement on n'arrive pas à tenir.
Ce qui veut dire que c'est beaucoup de sacrifices aussi.
Ouais, je ne sais pas si on doit appeler ça des sacrifices, c'est beaucoup de contraintes, c'est des contraintes professionnelles, mais c'est aussi un choix personnel, donc ça ne s'appelle pas du sacrifice dans ces conditions-là. C'est vrai que c'est un métier qui est astreignant dans la mesure où les vaches elles font du lait tous les jours de l'année. Il faut les traire une fois le matin, une fois le soir quand on traite à la salle de traite, ou alors quand c'est un robot de traite, il faut surveiller les vaches et être de toute façon présent pour pouvoir régler un problème. Oui. C'est un métier qui exige d'être présent avec ses vaches et de les observer et les... C'est une vie commune en fait. Hein.
Sans passion, ça ne peut pas se faire.
Sans passion, c'est un peu compliqué.
Vous avez connu des crises aussi, parce qu'on parlera tout à l'heure des conditions économiques, mais on sait que pour les éleveurs laitiers, la question du revenu, la question du prix du lait est extrêmement sensible.
Alors la question est tellement sensible que moi je suis plutôt en fin de carrière. La semaine dernière, on était en train de trier nos vieilles comptas et on regardait les factures de lait et on s'aperçoit que le prix du lait d'aujourd'hui, c'est le prix du lait de quand on s'est installé en tant qu'agriculteur il y a un peu plus de 30 ans.
Ah oui.
C'est exactement la même chose.
Le coût de la vie a évidemment augmenté. Le prix du lait, lui, n'a jamais bougé.
Le coût de la vie et le coût de toutes nos charges de production, de fabrication, le personnel, tout a augmenté, a suivi le reste. Et le prix du lait est resté le même. Et donc, fatalement, alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour nous qui, dans notre filière d'appellation, aujourd'hui, avons un lait un peu différencié de par sa production et donc de sa rémunération. Mais globalement, les producteurs de lait français, aujourd'hui, sont payés au même prix du lait qu'il y a 30 ans. Et fatalement, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'en fait, pour réussir à fonctionner, on parlait tout à l'heure de taille de troupeau, et bien pour réussir à gagner de l'argent, comme la marge continue de façon permanente à diminuer à l'unité produite, il faut produire de plus en plus. Alors les gens ne veulent pas entendre parler de grandes exploitations, mais malheureusement, il n'y a pas de vie économique dans des petites exploitations pour faire du lait standard payé... pas trop cher.
Payer très, très peu cher, et on parlera de la question qui sous-tend ça, puisque vous dites que vous êtes en fin de carrière, c'est la question de la transmission aux jeunes générations et comment attirer aussi les jeunes vers ces métiers où la question de la rémunération évidemment se pose par rapport à l'implication, si on ne parle pas de sacrifice, plutôt à l'implication que ça représente. Merci encore Jean-Claude Pet de nous accueillir sur votre exploitation. On va continuer d'en parler bien sûr tout au long de la matinale jusqu'à 7h en direct ici. Nous sommes en Seine-et-Marne à la ferme de Juchy. On se retrouve dans un instant. Il est 5h26 sur Europe 1.
Surprise, a single teardrop.
The Weeknd sur Europe 1 avec Save Your Tears. Le 5-7 continue en direct depuis cette ferme, la ferme de Juchy en Seine-et-Marne. Il est 5h29 et on va retrouver Valérie Darmon pour la météo. Qu'est-ce qui nous attend pour ce vendredi, Valérie ?
Eh bien, c'est le gris qui domine quasi partout. Il ne faut pas oublier son parapluie aujourd'hui. Un petit peu moins tout de même sur la façade atlantique et encore entre Golfe du Morbihan et Landes, même pas jusqu'au Pays Basque. C'est dire. La France reste sous l'influence d'un système dépressionnaire sur l'ouest de l'Europe. Il est couplé à de l'air froid et instable en altitude. Résultat, beaucoup d'instabilité nuageuse et pluvieuse ce matin du sud-ouest aux frontières de l'est. Orageuse cet après-midi sur le nord et la façade est. Des chutes de neige se produisent encore dans les Alpes à partir de 1500 mètres. Le vent souffle de manière assez sensible dans le sud-ouest et près de la Méditerranée. Et les températures sont trop faibles pour cette saison. Entre 2 à Charleville-Mézières ce matin et 12 degrés à Nice. Et cet après-midi, entre 13 à Rodez et 22 à Nîmes.
Merci à vous Valérie Darmon. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
L'agriculture est à l'honneur ce matin sur Europe 1. Le 5-7 continue depuis la ferme de Juchy. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Tout de suite un nouveau journal, il est 5h30.
Aujourd'hui, c'est un vrai redémarrage avec des campeurs en caravane, en toile de tente, en location. On a besoin de cette vie-là, on en a été privé pendant longtemps, voilà, c'était compliqué. C'est le grand week-end de la relance.
Des campings qui font le plein et des touristes heureux. Même la pluie ne pourra pas gâcher ce premier long week-end de liberté qui lance véritablement la saison après des mois de fermeture. Dans ce journal aussi, les Américains vaccinés pourront tomber le masque en intérieur. Les inquiétudes de l'Élysée face au spectre d'une victoire du Rassemblement National en PACA. Et la fin du rêve pour les amateurs de Rumi, battu 5-1 hier soir par Monaco en demi-finale de la Coupe de France.
Et après le journal, le 5-7 continue ici en Seine-et-Marne et de l'étable. Nous allons traverser la cour pour aller découvrir la fromagerie. On y fabrique le Brie de Melun, le Bria Savarin avec les produits ici sur la ferme. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Plus qu'un simple pont, ce week-end de l'Ascension, c'est presque un retour à la vie pour les professionnels de l'hôtellerie comme pour les touristes. Illustration dans ce camping de Cheverny, dans le Loir-et-Cher. Nicolas Fellman pour Europe 1.
Ce qui nous a manqué le plus depuis un an, c'est être ensemble.
Salut !
L'occasion était trop belle pour cette bande de copains. 5 familles, une quinzaine d'enfants, ils viennent de Nantes, de Lyon, de la région parisienne. Et un point de ralliement, c'est bungalow à l'abri des saules pleureurs.
Moi je vis à Saint-Denis, donc l'ambiance c'est plus le béton. Là, le contraste nous fait beaucoup de bien. Ça va nous faire une grande respiration pour ce week-end.
Et ce ne sont pas ces quelques gouttes de pluie qui vont gâcher la fête.
Si on doit faire des parties de cartes ou juste déconner entre copains sous les tentes ou dans les bungalows, ce sera déjà très bien.
D'autant que les enfants pour le moment s'occupent au calme à l'abri.
J'ai envie de faire ça.
Ça va les campeurs ?
À l'extérieur, Laurent, le gérant du camping, est un homme heureux. Toutes ses locations sont occupées.
Notre métier, c'est quand même d'accueillir les vacanciers, d'échanger. Donc oui, on est heureux. Aujourd'hui, c'est un vrai redémarrage avec des campeurs en caravane, en toile de tente, en location. On a besoin de cette vie-là. On en a été privé pendant longtemps. Voilà, c'était compliqué. C'est le grand week-end de la relance. On espère qu'il annonce plein de bonnes choses pour la saison.
Avec dès mercredi, une nouvelle étape dans le déconfinement. Le gérant va pouvoir débâcher ses deux piscines en extérieur et enfin rouvrir les terrasses du bar. Cheverny, Nicolas Feldman, Europe 1.
Et en matière de perspective, en voilà une qui a de quoi faire rêver. Les autorités américaines ont annoncé hier soir un nouvel assouplissement des règles pour les personnes vaccinées. Elles avaient déjà le droit de ne plus porter le masque en extérieur. Désormais, elles en sont même dispensées en intérieur. Et le président américain Joe Biden s'en est félicité.
Si vous êtes entièrement vacciné, vous n'avez plus besoin de porter un masque, à l'intérieur ou à l'extérieur. Je pense que c'est une grande étape, un grand jour. Vous avez le droit de faire quelque chose pour lequel les Américains sont connus dans le monde entier. Accueillir les autres avec un sourire.
Des sourires en Amérique du Nord et des inquiétudes au Japon, confrontés à une quatrième vague. Un syndicat de médecins hospitaliers juge impossible la tenue des JO à partir du 23 juillet prochain.
Voilà une nouvelle qui fait mauvais genre entre erreur ou absence de traduction. L'éducation nationale contrainte de revoir les notices des autotests distribués depuis 3 jours dans les lycées.
Oui, car près de la moitié des modes d'emploi présentent une erreur. Pour Europe 1, Pierre Arbulot.
Une barre, vous êtes positif au Covid-19. Deux barres, vous êtes aussi positif au Covid-19. Voilà en substance le contenu de la notice de l'autotest PanBio. Un problème de traduction en français rapidement identifié par les enseignants et Philippe Vincent, président du SNPDEN, le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale.
Pour tout vous dire, ça a beaucoup fait rigoler, quoi, parce que on se doutait bien qu'il y avait un résultat positif et un résultat négatif. Le plus gag dans l'affaire, c'est malheureusement que l'erreur portée sur le résultat.
Comique, mais sidérant, 43% des tests commandés par l'État ont cette erreur dans la notice.
On se disait quand même qu'au vu du nombre d'autotests commandés et du montant qui avoisine les 250 millions d'euros, on aurait pu sans doute prendre quelques précautions pour des produits qu'on allait adresser à des centaines de milliers de personnes.
L'Éducation nationale a envoyé un mail rectificatif à tous les profs et les directeurs d'établissement avec une notice corrigée. Fin de l'histoire ? Pas vraiment. Le mode d'emploi de l'un des trois autres types d'autotests commandés cette fois pour les élèves a aussi un problème. Il est traduit sans erreur en 8 langues. Il manque simplement la version française.
Voilà, reste donc à traduire. Pierre Herbulot pour Europe 1.
Il est 5h35 sur Europe 1. La politique à présent et finalement dans la course régionale. Sophie Cluzel ne se présentera pas pour La République En Marche en région PACA.
La secrétaire d'État salue la liste de rassemblement bâtie par le président sortant Les Républicains, Renaud Muselier. Elle lui apporte son soutien. Un retrait qui coïncide aussi avec la montée du candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani, donné vainqueur par 2 sondages. Alors, si le RN prenait la tête de la région, quelles conséquences ? C'est ce sur quoi planche en ce moment le gouvernement à Louis Dragnel.
Oui, au-delà de l'impact politique d'un tel séisme qui renforcerait forcément la dynamique présidentielle de Marine Le Pen, il y aurait des effets d'image très négatifs pour l'exécutif. Par exemple, qu'à chacun de leurs déplacements en PACA, les membres du gouvernement soient accueillis par un président de région Rassemblement National, en l'occurrence Thierry Mariani. Autre conséquence très embarrassante, le Festival de Cannes. Pour de très nombreux ministres, il est insupportable d'imaginer des élus RN apparaître sur les photos des magazines à côté des stars du monde entier. En dehors de ces symboles, le plus fâcheux pour l'Élysée serait que le RN puisse être crédité des bénéfices du plan de relance impulsé par le gouvernement dans la région. L'exécutif a particulièrement investi en PACA, notamment dans l'économie locale et les infrastructures. Un plan cousu à 4 mains par Emmanuel Macron et Renaud Muselier, un projet élaboré à un moment où le chef de l'État était encore convaincu du ralliement et de la victoire du président sortant de la région.
Louis Dragnel, coup de pression ou simple erreur ? Après avoir annoncé la présence de ses soldats dans la bande de Gaza hier soir, l'armée israélienne a finalement fait marche arrière cette nuit, évoquant un problème de communication interne. Depuis le début de la semaine, les frappes israéliennes sur ce territoire ont fait 103 morts, dont 27 enfants. 7 Israéliens, eux, ont été tués par des roquettes tirées par des groupes armés palestiniens. Enfin, ils l'avaient promis, ils ont joué leur chance. Les joueurs de Rumi ont même mené au score hier soir pendant 7 minutes en première période face à Monaco, mais ça n'a pas duré. Le club de 4e division s'est incliné 5-1. Le score est sans appel, mais la prestation méritait bien un coup de chapeau de leurs adversaires, hein, Julien Froment.
Oui, un parcours chaleureusement salué par l'AS Monaco qui, à la fin de la rencontre, dans le couloir menant au vestiaire, a fait une aide d'honneur aux joueurs de Rumilly pour les féliciter, le défenseur monégasque Aurélien Tchouamine.
On est admiratif de ce qu'ils ont fait, de leur parcours. Et puis aujourd'hui, nous, ce qu'on a apprécié, c'est que c'était une équipe qui a cherché à jouer, qui a, je pense, pris du plaisir durant ce match-là. On leur souhaite une bonne continuation.
La magie de la coupe n'aura duré qu'une 30aine de minutes sur cette demi-finale, avant que les amateurs savoyards ne soient rattrapés par la dure réalité du foot professionnel. Mais l'essentiel est ailleurs, le milieu de terrain de Rumilly, Jocelyn Gay.
Le score est un peu lourd, 5-1, mais ça ne doit pas effacer tout ce qui s'est passé avant. Fallait juste voir les joueurs qu'il y avait sur la pelouse ce soir. Dans la compo, il y avait quand même 2 champions du monde. J'ai juste allumé mon téléphone et à chaque message, je vois le mot fierté, donc... Juste ça, ça redonne le sourire. Et peut-être qu'on vivra que ça une fois dans notre vie. Donc, non, c'est fabuleux, c'est fabuleux.
Rumilly a aussi gagné d'un point de vue financier puisque son épopée va lui rapporter un peu plus de 600 000 euros de gains. Quant à Monaco, c'est une affiche de rêve qui l'attend mercredi prochain au Stade de France contre le Paris Saint-Germain.
Julien Froment.
C'était le journal de Marion Calais sur Europe 1. Il est 5h38. Et on retrouve Thierry Léger pour les pronostics du Quintet.
C'est un mini quinté plus qui nous est proposé en fin d'après-midi sur l'hippodrome de Vincennes avec seulement 12 partants qui en découdront sur la distance de 2100 mètres. Irrésistible depuis plusieurs mois où il enchaîne les bonnes performances, Copsi, le numéro 3, sera mon favori. en constant progrès. Malgré ses 9 ans, il n'a jamais été aussi performant et ses limites actuelles restent à déterminer. Son principal rival sera Equinox, le numéro 8, qui a enfin vu sa régularité récompensée par une très facile victoire obtenue le 16 avril à Vincennes. Derrière ces deux priorités, je vous recommande les numéros 7, Electra du Vivier, rarement déféré des quatre pieds, 5, Elena Di Quattro, sérieuse et maniable et qui peut être considérée comme une certitude dans les 5 premiers, et 6, Erdelios, à ne surtout pas condamner sur sa dernière disqualification. Enfin, les numéros 10, Holly Rolls, 12, Chacozaz et 9, Divine de Navarri, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 8, 7, 5, 6, 10, 12 et 9.
Merci à vous Thierry Léger et tous vos pronostics sont à retrouver sur Europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Il est 5h39 sur Europe 1 et nous sommes toujours au cœur de cette semaine dédiée à l'agriculture sur Europe 1. Le 5-7 a posé les micros d'Europe 1 dans une exploitation laitière. Nous sommes en direct ce matin depuis la Seine-et-Marne chez Jean-Claude Pet qui nous accueille. Merci encore, on vous a un peu envahi, mais merci de nous accueillir. On est allé visiter votre exploitation, votre étable tout à l'heure un peu plus tôt avec vos 100 vaches laitières qui produisent, vous nous le disiez, 800 000 litres de lait par an. Hein, c'est ça,
c'est à peu près
pas sur le chiffre. Eh ben, on va découvrir maintenant ce que devient ce lait et on va se tourner vers la fromagerie qui est ici sur le même site, juste de l'autre côté de la cour. Cette fromagerie, c'est vous qui l'avez créée et aujourd'hui elle est dirigée par Philippe Delin qui nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, bienvenue. C'est vous qui avez donc repris cette fromagerie aujourd'hui. Faites-nous peut-être un petit peu la présentation du lieu. Combien de fromages vous produisez ici?
Donc oui, on a repris maintenant depuis pratiquement 3-4 ans cette fromagerie à Jean-Claude. En fait, aujourd'hui, donc il y a le Brie de Melun, comme l'expliquait bien Jean-Claude tout à l'heure, qu'on fabrique ici, qui est un AOP. Et en plus, on est dans la zone aussi du Bria Savarin IGP, où nous, on a une autre fromagerie en Bourgogne où on fabrique aussi ce Bria Savarin-là. C'est pour ça que ça me plaisait de reprendre cette exploitation de fabrication fermière, alors qu'on n'a pas l'appellation fermière parce qu'on n'est pas propriétaire de la production du lait, mais on fabrique donc ces deux fromages-là, le Brie de Melun AOP, le Brie à Savarin au lait cru, avec le lait de la ferme de Juchy, de Jean-Claude et de Patricia.
C'est-à-dire que tout le lait qui entre dans la fromagerie vient de la ferme ici, tout se fait en local.
Tout à fait. Tout le matin, les personnes de l'exploitation nous emmènent avec le tracteur et la boule le lait aux alentours de 2000 litres tous les jours qu'on produit, donc soit en Brie de Melun AOP ou soit en Brie à Savarin au lait cru.
Qu'est-ce que ça change justement dans la fabrication d'un fromage de pouvoir récupérer le lait comme ça, presque encore tiède, juste après la traite?
Ben, en même temps, on va tout de suite emmener à nous les ferments lactiques pendant la traite pour préparer le lait à la coagulation. Donc quelque part, on peut pas aller plus près d'un lait frais, d'un lait jeune, d'un lait qui vient d'être traire. Et en même temps, ça donne toute sa saveur après dans le produit et dans la fabrication. Pour moi, c'était vraiment un rêve, voilà, d'avoir à côté de l'exploitation que le lait arrive directement en tant que fromager. Parce que bon, moi, vous comprendrez que je suis pas du tout producteur de lait, je suis plus fromager par passion et d'avoir le lait qui arrive de la ferme directement comme ça tous les matins, c'est un rêve quoi, c'est magnifique.
C'est magnifique, ça donne de très beaux produits puisque je crois que vous avez obtenu plusieurs prix au concours général agricole, notamment au salon de l'agriculture. Présentez-nous ces produits justement, Brie de Melun, Brie à Savarin, quel est un peu le processus de fabrication et les particularités de ces deux fromages?
Oui, donc en fait le processus de fabrication c'est un petit peu le même dans la coagulation qu'on appelle, donc on prépare le lait à la coagulation le jour J et on l'emprésure en début d'après-midi pour le mouler le lendemain matin. Le lendemain matin, on va mouler aussi bien le Brie. Bon, pour le Brie à Savarin, on va rajouter de la crème, hein, comme c'est un fromage double crème, qu'on apporte le lait à 120 grammes de matière grasse. Donc avant, on va rajouter de la crème par rapport au Brie de Melun, lui, qui est fait au lait entier. Et ensuite, le lendemain, on va mouler donc ce fromage, ce caillé qui est devenu comme un gros yaourt, un coagulum. On va le mouler à la louche et on va les laisser égoutter pendant 24 à 48 heures selon les produits. Et ensuite, on va les saler, les sécher et les affiner. Alors l'affinage est différent entre les deux. Le Brie à Savarin va être affiné pendant une dizaine de jours, 15 jours, tandis que le Brie de Melun, on peut l'affiner entre 5 et 9, 10, 12 semaines.
Le Brie de Melun, donc appellation d'origine protégée, le Brie à Savarin, indication géographique protégée. Dans les deux cas, ce sont des appellations qui indiquent qui sont des garanties de qualité aussi de ces fromages. Et là, Jean-Claude Pelle, je reviens vers vous parce que ces appellations, elles impliquent dès l'élevage en fait des conditions extrêmement précises. Qu'est-ce que ça change ?
En fait, l'appellation, ça concerne toute la filière. Il y a des normes de fabrication. Pour la fabrication du fromage, il y a des normes pour l'affinage des fromages, mais il y a surtout, et de façon essentielle, des normes dans la production du lait. Alors ça oblige d'une part à être dans la zone d'appellation, c'est le premier critère, et ensuite ça oblige à certaines obligations au niveau de l'alimentation essentiellement des animaux, aussi au niveau de leur logement. Par exemple, pour le Brie, les animaux doivent être logés sur de la paille. C'est obligatoire.
C'est extrêmement précis. Ouais.
Voilà. C'est pas évident dans tous les élevages. Et puis, au niveau de l'alimentation, l'alimentation doit provenir essentiellement de l'exploitation où sont les vaches. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un élevage, ce qu'on appelle hors sol, où les vaches, où on achète l'intégralité de l'alimentation ailleurs. Et puis, on a aussi des obligations sur le type d'aliments qui doivent être distribués. C'est-à-dire qu'en, dans le Brie, par exemple, où on est dans une zone de plaine, d'agriculture de plaine, il y a l'obligation d'utiliser des légumineuses fourragères, telles que la luzerne, ou alors également de la pulpe de betterave, qui est un produit qui est produit dans toutes les exploitations de la région, ou presque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est véritablement le raccord entre la production du lait et son terroir et les obligations du terroir.
Tout doit être fait quasiment sur place. Philippe Delain, on était tout à l'heure dans l'étable de Jean-Claude Pelle et on voyait que les vaches ont la liberté de pouvoir sortir, de pouvoir rentrer, de pouvoir du coup aller brouter dans les plaines juste à côté. Tout ça va avoir un effet, bien sûr, sur la qualité du fromage.
Ah bah oui, tout à fait, exactement. On va avoir tous les bienfaits justement de cette alimentation et que les vaches soient en pleine forme pour donner un très bon lait. Et automatiquement, quand on a un bon lait, c'est comme tout, on a de bons produits après, lors de la fabrication, lors de la coagulation. Nous, la principale matière qu'on a besoin, c'est la matière protéique et les matières grasses qui sont dans le lait. Et pour nous, quand les vaches sont bien nourris et ils sont bien au point de vue de leur territoire et tout ça, on a vraiment des produits de qualité et c'est ce qu'on fait ici à cette fromagerie. C'est pour ça que ça m'a plu tout de suite quand j'ai eu la possibilité de reprendre cette fromagerie à Jean-Claude et Patricia.
Et Jean-Claude nous disait que ça permettait aussi de mieux valoriser aussi le lait dans des produits qui sont dans ces appellations, et ça veut dire aussi qu'il faut y penser comme consommateur quand on achète nos fromages, peut-être de regarder ces appellations parce qu'elles sont importantes. Ça valorise aussi au bout de la chaîne les éleveurs et les fabricants. D'un mot, Philippe Delain, avant de vous quitter, on les trouve où vos fromages ? Vous les commercialisez où ?
Alors nous, on commercialise surtout chez des grossistes qui sont sur Rungis, notamment, ou des grossistes un petit peu en France, qui vont revendre soit beaucoup chez des crémiers fromagers, donc beaucoup chez les crémiers fromagers, un petit peu en grande distribution, mais c'est surtout, nous, le réseau de crémiers fromagers où sont principalement nos fromages, un petit peu en Île-de-France, un petit peu quand même en grande distribution, mais voilà, nous, en fait, on va livrer nos fromages, notamment sur Rungis, chez des grossistes qui vont revendre après à des crémiers fromagers ou à la grande distribution.
Voilà, notamment donc votre Brie à Savarin IGP qui a obtenu la médaille d'argent concours général agricole en 2019, c'est au salon de l'agriculture.
Tout à fait.
Médaille de bronze, je crois, pour le Brie de Melun que vous fabriquez.
C'est ça, tout à fait. On essaye de faire des produits de qualité parce que moi j'estime que on a un produit vivant qui arrive, qui est produit. Parce que bon, tout le monde dit que les fromages sont bien, sont bons, ceci, cela, mais derrière il y a les producteurs de lait et je pense qu'il faut vraiment les mettre en avant, ces producteurs de lait, parce que sans eux, nous on n'est rien en tant que fromager. Et si on a le consommateur a des très bons fromages, c'est grâce à ces producteurs de lait. Donc oui, il faut vraiment remettre en avant la, comme disait Jean-Claude. Par rapport au prix, par rapport aux revenus, tout ça, il faut vraiment, pour avoir un produit de qualité, il faut vraiment avoir un très bon lait. Donc, il faut pas oublier toute cette chaîne qu'il y a entre le fromage qui est produit par le consommateur et derrière les agriculteurs.
Voilà, et il faut y penser quand on effectivement quand on achète nos fromages, c'est important de favoriser toutes ces appellations. Merci beaucoup Philippe Delin d'être venu nous présenter votre fromagerie, la fromagerie de Juchy, donc qui est ici sur le même site que l'exploitation, on l'a bien compris. Il est 5h48 sur Europe 1.
Europe 1.
Et on va retrouver Jean-François Pérez dans un instant pour La France Bouge, à tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Écoutez le monde changer.
6h10 sur Europe 1, on écoute le monde changer et on écoute la France bouger chaque jour, les initiatives qui font bouger la France. C'est avec vous ce matin Jean-François Pérez, rebonjour. Et ce matin nous allons en Gironde où la musique électro vient au secours des étudiants dans le besoin. Expliquez-nous.
Oui, musique électro et vie estudiantine, a priori deux mondes assez connectés l'un à l'autre, deux mondes que la pandémie a forcément éloigné, au moins dans sa partie festive. Et voilà qu'elle les réunit de nouveau pour combattre l'un des fléaux les plus méconnus de cette période, la précarité étudiante. Vous avez sans doute vu ces images poignantes de files d'attente interminables pour obtenir des dons de nourriture ou encore des repas à 1 euro.
Tout est parti d'un moment de choc et de grande tristesse pour l'un des vétérans de la scène électro-bordelaise.
Oui, il s'appelle Christophe Salzac, directeur du label alternatif Six Click Music. Il a vu une étudiante s'évanouir devant lui. Elle n'avait plus mangé depuis 3 jours et face à l'inacceptable, il s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Il a alors eu l'idée d'une production d'artistes électro-locaux dont les bénéfices seraient reversés à une association caritative. L'appel a été entendu. Au-delà de ses espérances, 50 musiciens ont répondu présents, des Bordelais bien sûr, mais aussi des Lyonnais, des Parisiens, ou encore des Suédois et des Sud-Américains.
Le résultat s'appelle Urgence Alimentaire. C'est une compilation qui est téléchargeable sur Internet.
Oui, vous pouvez la télécharger pour 3 euros et même plus. Vous donnez ce que vous voulez. C'est l'association Solidarité Continuité Alimentaire Bordeaux qui récupère les fonds. Une association qui a déjà effectué 7000 distributions de nourriture et de produits d'hygiène depuis un an et qui a, hélas, de plus en plus de mal à faire face à la demande. D'ailleurs, des dons sont faits sur le campus de Pessac. Le prochain aura lieu ce matin. Donc, pour participer, vous allez sur le site Bandcamp. Vous cherchez la page Six Click Music. Non seulement vous ferez un bon geste, mais en plus vous aurez de la bonne musique dans les oreilles et on va un petit peu se réveiller avec des sonorités brésiliennes. On a toujours besoin du Brésil. Extrait de cette compilation, donc Urgence Alimentaire, voici Barbara Goish, Sabor Brasil.
Sabor Brasil, voilà, sur cette compilation Urgence Alimentaire destinée donc à financer des actions en faveur des étudiants. Merci à vous Jean-François Pérez. 5h52, on va regarder ce qui anime les réseaux sociaux ce matin avec vous Martin Lange.
Oui Sébastien, ce matin je vous emmène dans l'espace sur les traces de Thomas Pesquet, enfin plutôt sur ses réseaux. L'astronaute français est hyper présent sur la toile, Instagram, Twitter. Hier encore, il a partagé plusieurs photos de son quotidien à bord de la Station Spatiale Internationale. Séance de bricolage ou encore atelier coiffure. On le voit couper les cheveux de son collègue japonais, pas franchement rassuré. Mais ce qui marche le plus, c'est évidemment ces photos de la Terre vues de l'espace. Elles sont époustouflantes, à aller les admirer, ça vaut le coup. Hier, c'était la presqu'île de Quiberon, avec une pensée pour ceux qui sont en week-end prolongé pour l'ascension. Et puis toujours une petite blague, c'est sa marque de fabrique. Cette photo ravira nos amis bretons. On a tous un ami breton, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sébastien.
On a tous un ami breton.
On a tous un ami affirmatif.
Il faut.
Quelques heures plus tôt, il avait posté une photo de la Mecque illuminée pour souhaiter une joyeuse fête de l'Aïd à tous les musulmans. Une attention qui a ravi plusieurs stars. Laïla Bekti, la compagne d'Omar Sy ou encore le comédien Youssef Hadj l'ont remercié sur Instagram.
C'est quelque chose qu'il avait déjà amorcé lors de sa première mission, très très présent sur les réseaux sociaux, Thomas Pesquet. On imagine qu'il a à nouveau beaucoup de succès sur toutes les plateformes.
Tout à fait, plus d'1 million d'abonnés sur Twitter, 1 600 000 sur Instagram.
Ah oui,
ça vous pose un influenceur, sa photo de la Mecque hier a été likée près de 300 000 fois. Cette popularité, elle aiguise les appétits, forcément. Les politiques, bien sûr, qui mettent en scène leur soutien en espérant gagner quelques likes. Hier, c'était Marine Le Pen qui a retweeté la photo de Quiberon avec un petit clin d'œil. Thomas Pesquet se garde bien de réagir dans ces cas-là. Mais il y a aussi des artistes qui rêvent de voir leur nom associé à l'astronaute. Il y a quelques jours, c'est le groupe Coldplay qui a dévoilé en avant-première son dernier single depuis l'espace.
Yeah, man. Please. This is like the premiere in the whole...
Galaxy.
The whole galaxy.
C'est la classe, quand même.
Coldplay, c'est la grande classe.
Voilà, alors Coldplay qui dévoilait son titre depuis l'espace.
Depuis l'ISS, exactement.
Évidemment.
On a aussi parlé d'une avant-première de Kaamelott depuis l'ISS. Un succès qui ne plaît pas à tout le monde. Hier, le Figaro publiait une tribune de deux astrophysiciens qui disent regretter cette société du spectacle sur orbite. Marianne va même jusqu'à qualifier Pesquet d'homme sandwich. Voilà, le débat est posé.
1 million d'abonnés sur Twitter, 1 600 000 sur Instagram. C'est colossal, Thomas Pesquet, depuis l'espace, donc il continue d'alimenter les réseaux sociaux. Merci à vous, Martin Lange, il est 5h54. L'histoire du jour de Christophe Ondelatz, c'est l'histoire incroyable de la fuite du général de Gaulle à Baden-Baden, c'était en plein mai 68. C'est à 14h sur Europe 1 et dès maintenant sur Europe1.fr. Europe 1. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On parle environnement avec vous chaque matin, notre planète à suivre, à tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Il est 6h05 sur Europe 1, votre 5-7 continue. Nous sommes installés à la ferme de Juchy en Seine-et-Marne pour mettre en avant l'agriculture ce matin. Et on va parler d'environnement. Ça, c'est chaque matin avec Fanny Agostini, des solutions pour changer la donne. Ce matin, Fanny, on sait combien il y a des problématiques écologiques autour du textile, des vêtements. Bien, vous vouliez mettre en avant une nouvelle marque française qui est en bonne voie pour tenir le pari d'être éthique de A à Z.
Oui, c'est une initiative que j'aimerais saluer car des aussi aboutis que cela mérite qu'on en parle. Cette initiative a été lancée par un ancien étudiant sous le nom d'Anthropocène. Anthropocène, c'est tout un symbole car c'est le mot employé par les scientifiques pour parler de la nouvelle ère géologique dans laquelle nous sommes maintenant rentrés. Une ère dans laquelle l'humanité a imprimé sa marque, en quelque sorte, notamment par les changements climatiques qu'elle a créés. Cet étudiant a aussi voulu imprimer cette marque sur ses vêtements pour marteler un message fort et réaliser ce défi, celui d'être jusqu'au boutiste, c'est-à-dire être propre jusqu'au bout, d'un bout à l'autre de la chaîne de production, chose que l'industrie du textile a encore bien du mal à faire.
Et cet étudiant s'est même compliqué la tâche en optant pour la fabrication de vêtements sportifs qui sont les plus compliqués parce qu'il faut forcément utiliser du polyester.
Le polyester, justement, il le récupère sous forme de déchets collectés sur les bords de mer français. Pour les autres matériaux employés, il s'agit de chutes de vêtements. Tous les collaborateurs qui travaillent sur le design sont situés en France. L'usine de transformation du textile recyclé, elle, est du côté d'Amiens. Et c'est un laboratoire de Nancy qui transforme le plastique recyclé en polyester textile. Les ateliers de confection et de broderie sont tous les deux à Troyes. Et même les fabricants de cordons ou d'étiquettes sont en France, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et cerise sur le gâteau, la moitié des bénéfices d'Anthropocène sont orientés vers des associations environnementales et sociales.
Fanny, est-ce que d'autres entreprises commencent à faire de même comme ça, à les puiser dans le textile qui existe déjà pour fabriquer de nouveaux vêtements ?
Il y a aujourd'hui, il faut le dire, beaucoup trop de vêtements qui sortent chaque année des usines à partir de matériaux neufs. Ce sont plusieurs milliards de pièces, de quoi rhabiller l'humanité tout entière plusieurs fois. Le recyclage de la matière pourrait donc à moyen terme devenir la règle. Sans oublier la dimension éthique à la fabrication de vêtements. Les bas prix de la fast fashion ont induit une exploitation accrue des personnes. La transparence sur la provenance des matières, les lieux de confection des vêtements, c'est important, mais aussi la redistribution des richesses qu'elle génère. Cette dimension éthique du respect des travailleurs est un critère que les marques devraient désormais arborer. Le respect de l'environnement est indissociable du respect des personnes.
Merci à vous Fanny Agostini, notre planète chaque matin. Il est 5h58.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Changer, on écoute l'agriculture changer ce matin sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez en ce vendredi 14 mai. C'est un 5-7 très particulier parce que Europe 1 lance une nouvelle semaine dédiée à l'agriculture française et nous avons posé les micros du 5-7 dans une ferme chez un éleveur laitier, Jean-Claude Pet. Merci encore de nous accueillir depuis 5 heures ce matin. On était dans l'étable avec vous, avec votre centaine de vaches tout à l'heure. On ira voir la traite. C'est quelle heure la traite ?
Ça commence vers 6h30.
Très bien, on ira tout à l'heure avant la fin de l'émission. Ce qui est intéressant, et on l'a vu, c'est que le lait que vous produisez traverse la cour pour fabriquer du fromage dans la fromagerie voisine. Et puis on va prendre un peu de hauteur dans l'heure qui vient pour évoquer les problématiques de votre filière, pointer aussi des solutions sur la rémunération des éleveurs, comment rendre aussi plus attractifs ces métiers. C'est des sujets qui vont nous occuper d'ici 7h. Valérie Darmon, je me tourne vers vous pour la météo de ce vendredi qui est plutôt maussade, hein.
Ah ben carrément, c'est gris quasi partout, il va pleuvoir quasi partout. L'amélioration, elle s'installe par la façade atlantique avec le retour de quelques belles éclaircies au fil de la journée. Les températures sont trop faibles pour la saison. Actuellement, 13 à Marignane, 5 à Besançon, 6 à Nantes, 8 à Tours, 7 à Lille, 10 à Agen et Toulouse, 11 degrés à Montélimar et à Lyon. Ces températures qui vont grimper cet après-midi entre 13 à Dunkerque et 22 à Toulon.
Merci Valérie, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.